Les traverses du temps. Bienvenue à toutes et à tous, parce que ce soir avec nous, il y a l'un des plus grands sculpteurs et orfèvres français et peut-être internationaux du monde entier. Je vais essayer de dire son nom, Guji Amashukeli, mais tout le monde l'appelle Guji. Il a fait de son prénom un nom et vice-versa, de son nom un prénom. Bonsoir Guji.
Bonsoir.
Et il y a un livre magnifique que j'ai sous les yeux, publié aux éditions Thalia. On va le mettre sur notre site, hein, francemusique.fr, à la page des traverses du temps, parce qu'il est sublime, on voit vos objets, c'est magnifique. Bien, alors, en le lisant tout à l'heure, je tombe sur un texte magnifique de Lucien, décidément magnifique, de Lucien Gerfagnon. Et en parlant de vous, il a cette phrase que je trouve très belle, juste aussi quand je regarde vos objets. Le passé n'est jamais pour vous qu'un futur que nous ne savons pas encore déchiffrer.
C'est bien dire, oui.
C'est ce que vous ressentez en faisant vos objets. On a l'impression qu'ils sont vivants. Les objets d'argent, je regardais ça. Regardez.
Oui, c'est un peu le produit de mon rêve. Donc, je rêve la nuit et je commence à matérialiser mes rêves depuis dans la journée. Et donc, comme ils sont des pièces uniques et entièrement faits à la main, donc il n'y a pas d'aucune moulage. Donc, c'est fait à partir d'une plaque.
Une plaque d'argent, par exemple.
À partir d'une plaque d'argent, par exemple, une plaque de l'or, et avec plusieurs pierres dures qui sont souvent comme éléments de décor de ces objets, et en même temps, ils sont fonctionnels aussi. Et donc, ça fait peut-être ce caractère assez unique, et comme vous dites, les objets sont vivants.
Et les objets, il y en a, parce qu'il y a des bijoux. Vous avez commencé par
J'ai commencé
bijoux.
Par les créations des bijoux. Bah, il faut dire que mon parcours n'était pas ordinaire. Je suis né dans une petite ville portuaire sous le bord de la mer Noire. Ça s'appelait à l'époque Union soviétique, le pays qui n'existait plus. Donc c'était la Géorgie. Et donc c'était ambiance extrêmement médiocre. Et en même temps hypocrite, c'est ce régime sur place. Et comme j'ai été rebelle depuis mon jeune âge, j'ai commencé à résister. Et donc, plus tard, comme je suis devenu étudiant, donc j'ai toujours essayé de gérer l'Occident, parce qu'évidemment, tout était interdit pour nous.
Y compris les... Parce qu'on vous connaît aussi beaucoup, non seulement pour les bijoux, les épées d'académiciens, bien sûr, oui. Mais il y a aussi des objets sacrés. Ça, c'était impossible là-bas, évidemment.
Ah non, non. Même exercer le métier d'orfèvre, c'était interdit par les lois. C'est-à-dire, c'était considéré comme activité subversive contre l'État socialiste. Voilà. Donc, tout ce qui restait, de trouver les boîtes de conserve, et encore, ce n'était pas facile à trouver les conserves, et de façonner cette tôle de boîtes de conserve. Voilà, si vous voulez, le début, c'était comme ça.
On va écouter, pour débuter l'émission, un kyrie que vous avez choisi de la messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut, une messe composée entre 1360 et 1365. C'est l'ensemble organum sous la direction de Marcel Pérez. Mais en écoutant cette messe, j'ai pensé à vous, le Géorgien. On écoute.
Thank you.
La polyphonie de Guillaume de Machaut, le Kyrie de la Messe de Notre-Dame, l'ensemble Organum sous la direction de Marcel Pérez. Vous aimez beaucoup les musiciens, vous en avez rencontré beaucoup, Marcel Pérez aussi ?
Oui, oui, tout à fait, j'ai rencontré il y a quelques années. Et donc on a eu l'entretien très, très, très intéressant et pour moi c'était très enrichissant en même temps.
Et cette musique, quand on l'entend, on pense à la Renaissance, mais on a l'impression que ça vient de tellement plus loin, ces polyphonies.
Oui, mais ça, par exemple, la polyphonie, donc en tous les... certaines populations de bassins méditerranéens, comme des Basques, des Corses, même Albanais, et les Georgiens, ils ont des choses communes. Donc on ne sait pas ça vient d'où, à quel moment c'était formé.
Bien sûr. Et je voulais vous demander aussi, comment la Géorgie, vous n'êtes pas resté à Tbilissi, vous allez partir.
Voilà, j'ai été étudiant de Beaux-Arts à Tbilissi. C'était l'époque de guerre froide. Donc, par exemple, le mot jazz était complètement interdit. Et par opposition, les gens, moi j'ai trouvé un certain nombre de personnes avec qui j'ai fréquenté, c'était vraiment une fanatisation des gens pour la culture en général, pour la culture américaine et notamment pour les jazz.
Parce que c'était interdit aussi.
Parce que c'était interdit.
Et c'était un peu la liberté.
Voilà. Oui, justement, pour nous, ça a été un peu d'oxygène. Mais plus tard, j'ai compris, évidemment, que ce n'est pas que ça qui compte. Et à cette époque, évidemment, on ne pouvait même pas imaginer qu'il y aura quelqu'un mieux que Frank Sinatra, par exemple. Quelle était l'ambiance. Après, mon destin m'a amené à Moscou, où j'ai commencé à travailler en qualité de designer dans un bureau d'études. Et j'ai participé à quelques expositions. Et un jour, ils m'ont dit, écoutez, un certain Volkonsky vous cherche. Volkonsky, ça, je connaissais le nom. C'était un musicien, chef d'orchestre, compositeur et claveciniste. Donc, il a eu des destins tragiques. Donc, ses parents, il est né à Paris, dans le milieu rousse-blanche. Et les parents, par imprudence, ils ont amené dans le patrie.
Ah oui, comme a fait Prokofiev, ils sont rentrés parce qu'il y avait beaucoup de publicité.
Voilà. Mais, évidemment, c'était la propagande soviétique.
La propagande, pardon. Oui.
Et donc, ils sont rentrés juste après la guerre. Donc, il était très malheureux parce qu'ils n'ont même pas eu le droit de vivre à Moscou. Et sauf comme il y a eu cette période de dégel, ou autrement dit, comme disait un grand poétesse russe, Anna Akhmatova, c'était l'époque végétarienne. Donc, c'était des assouplissements de régime. Donc, il était autorisé à rentrer à Moscou. Et évidemment, comme il était un érudit, un homme raffiné, des grandes cultures, et il a essayé de créer cet ensemble vocal et instrumental qu'il appelait Madrigal. C'est le seul ensemble dans toute l'Union soviétique qui interprétait l'ère de Renaissance, compositeur inconnu ou connu. Et donc, il y a eu 4 ou 5 chanteurs et autant qu'instrumentalistes.
Et là, on va écouter Maria Yudina. Vous allez, je pense, nous en parler après.
Oui.
On va d'abord l'écouter. C'est les variations 1 et 2 des variations Goldberg. Maria Yudina, je donne les dates pour qu'on comprenne mieux. 1899-1970, Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
les variations 1 et 2 des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, Maria Iudina au piano, Gucci. Maria Iudina, vous ne l'avez pas vue jouer, j'imagine, mais vous l'avez rencontrée.
Mais écoutez, un jour, au centre de Moscou, j'étais devant l'arrêt de bus et quelqu'un a dit « Regardez, regardez, c'est Maria Iudina ». Et je l'ai vue, une femme âgée, malheureusement assez dégradée. C'était mois de novembre, elle a eu un manteau assez légère et sur les pieds, les chaussures d'homme. Et il tenait dans les mains le maigre provision. Voilà, si vous voulez, ça montre bien dans quelles conditions vivaient certains musiciens. Pourtant, c'est une femme extraordinaire, très, très grand talent. Elle fréquentait les milieux des poètes et des philosophes de l'année 30-40, mais ils étaient tous éliminés petit à petit. Si vous me permettez, c'était encore la guerre, 1944. C'était direct d'interpréter le concerto 23 de Mozart avec orchestre symphonique. Et Joseph Staline écoutait. Je ne crois pas, mais il paraît qu'il a eu l'âme aux yeux. Et il a réclamé le disque. Et à 2h du matin, Maria Iudina a été réveillée par les gardes de Staline. Est amené au studio d'enregistrement où l'orchestre attendait. Et de la même manière, tous les membres de l'orchestre ont été réveillés. Ils ont enregistré et gravé des disques et le matin, ces disques étaient sur le bureau de Staline. Voilà, ça, c'est l'histoire absolument vraie. Et comme elle a reçu, après la guerre, prix de Staline, parce que c'était une distinction très importante, elle était une femme tellement généreuse. Elle vivait très pauvrement. Elle a donné intégralement tous ses prix à l'église orthodoxe russe. Voilà, montre cet courage. Par exemple, dans cette période, comme tout le monde méfiait, poète Ossip Mandelstam, par exemple, elle a rendu visite. Donc, elle disait ce qu'elle pensait. Et donc, pour ça, je voudrais rendre hommage à cette femme courageuse et des grands, surtout grands musiciens.
On va revenir à Volkonsky parce qu'il oui. vous a fait connaître la musique de la Renaissance. Et puis déjà, vous aviez le goût aussi avec lui, je pense, de la musique grand siècle française ou pas encore?
Oui, c'est grâce à lui.
Grâce à lui.
Grâce à lui, parce que tout ce qui est les compositeurs du XVIIe siècle, c'était très mal connu dans l'Union soviétique. Voilà. Parce que c'est une musique sacrée, n'est-ce pas? Mm-hmm. Voilà. Et donc, comme ça, c'est Volkonsky qui m'a fait découvrir tous ces musiciens. Et également, il m'a demandé, pourquoi il m'a cherché, il m'a demandé de créer les décors pour son spectacle. C'est-à-dire, j'ai fait 5 chandeliers assez importants pour en fer forgé pour ce concert.
aller répandre la lumière, le cœur de la scène 2 de l'acte 4 de Phaéton, l'opéra de Lully, le livret du Kino, cœur de chambre de Namur, les talents lyriques dirigés par Christophe Rousset. Volkonsky Gudzi va vous faire rencontrer du monde.
Oui, parce qu'il fréquentait le milieu musicien, bien entendu. Et comme il parlait français comme un français, il connaissait certain nombre de Français qui habitaient à Moscou. Et un jour, il m'a présenté une jeune Française, une Parisienne. C'est la première fois que je voyais en vrai une Française. Et donc, on s'est rencontrés. Et depuis, on ne s'est jamais quitté, figurez-vous. Donc, elle est devenue ma femme.
Catherine Barsac.
C'est la fille d'André Barsac et la petite nièce de l'admirable décorateur de théâtre, Léon Barsac. Elle travaille à l'ambassade de France. Voilà. Donc, et si je suis là aujourd'hui avec vous dans cette studio, vraiment grâce à elle. Donc, je dois beaucoup à ma femme.
Et en France, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre aussi qui a une grande importance dans votre vie professionnelle et aussi, c'est un grand ami, c'est Claude Bernard.
Oui, écoutez, j'ai commencé ça fait il y a 40 ans déjà, j'ai commencé mon travail en France, à Paris. J'ai commencé à exposer timidement dans une galerie Plessis à Nantes, galerie Capazza à Nancy. Et ensuite, j'ai rencontré Claude Bernard, qui m'a ouvert sa galerie, et pas seulement sa galerie, il m'a ouvert sa propriété, sa maison à Touraine, où il a une extraordinaire théâtre, une salle de concert, où nombreux musiciens sont passés par cette salle de concert. Et entre autres, j'ai rencontré, par exemple, Jean Guillou, organiste titulaire de Saint-Eustache, parce qu'il a l'orgue aussi dans cette
théâtre. Oui, c'est un orgue du XVIIe siècle.
C'est espagnol du XVIIe siècle, magnifique. Donc c'est Jean Guillou qui venait au mois d'août passer quelques jours jouer dans cet orgue. Donc c'était vraiment dans l'intimité, comme ça. Également Alain Planec. Et qui venait, Planès, qui venait aussi passer mois d'août, une semaine ou deux semaines.
Et c'était toujours plein de musique, il jouait du piano.
Oui,
jouait tout le temps.
Tout le temps. Et Raphaël Pouyanna qui venait avec son
Raphaël
propre.
Raphaël Pouyanna.
Oui, qui venait avec son propre clavecin.
Ah oui, bien sûr.
C'est chaque fois, c'était un déménagement. Voilà. Donc, c'était vraiment le moment inoubliable.
On va écouter Alain Planès. Vous avez choisi une sonate de Joseph Haydn, la sonate numéro 53 en mi mineur. On écoute le premier mouvement. Thank you. Avant la reprise du thème du premier mouvement de la sonate numéro 53 en mi mineur de Joseph Haydn, Alain Planès au piano. Je reviens au grand pianiste parce qu'on a entendu Maria Iudina, mais j'avais envie de vous demander aussi, vous avez entendu les grands autrement, les grands russes
qui... Oui, comme j'ai habité à Moscou, absolument, Emil Gilels par exemple, souvent on allait aux grandes salles de conservatoire. J'ai également en première reprise écouté David Oistrakh et comme chef d'orchestre, Evgeny Svetlanov.
Voilà, donc. Mais Richter, il ne venait pas aussi à la propriété, jouer à la propriété de Claude Bernard?
Ah oui, tout à fait, parce que comme il participait au festival d'Engrange de Mêlée, donc c'était vraiment le passage obligé, parce que Claude Bernard, il est dans quelques kilomètres de cette... de Mêlée, donc il venait souvent.
Puis je voudrais revenir à Volkonsky. Vous m'avez raconté quand je suis allé dans votre atelier magnifique à Montmartre, qui est un endroit magique. Vous m'avez raconté une histoire incroyable. Vous parliez de Shostakovitch, si je me souviens bien.
Mais écoutez, oui, je l'ai connu dans des circonstances assez bizarres, parce que j'ai recevé une correspondance d'un poste restaurant. Un poste central de Moscou, parce que j'ai été sans domicile fixe, donc j'ai eu même pas de logement, donc j'ai été vraiment comme SDF au début. Et je voyais toujours Shostakovich, parce que quand même visage était assez connu, et qu'il venait aussi chercher ses correspondances. Il était déjà assez malade, il marchait difficilement, mais il habitait pas loin de cette poste. Il préférait de recevoir ses courriers lui-même avec ses propres mains parce qu'il se méfiait des voisinages, parce que, vous savez, ça se passait comme ça. Les lettres pouvaient être interceptées par les voisins. Donc, il voulait faire ça. Donc, il venait. Il était presque aveugle. Il voyait très mal. Et c'était aussi l'hiver. Et il a eu sur les pieds quelque sorte de charentaise, vous savez. Il maladait comme ça.
Mon Dieu.
Ouais. Bon, c'est un homme qui était malheureusement brisé, complètement. Ils ont lancé des campagnes contre Solzhenitsyn et Sakharov, ils sont obligés de signer les papiers.
Contre eux, oui.
Voilà. Parce qu'il était brisé, il a eu peur de tout. Voilà. Donc ça se comprend.
On va écouter quelque chose de bouleversant, puisque c'est Hans Hotter. Ouais. Vous vouliez qu'on l'écoute dans le Gute Nacht du Voyage d'hiver de Franz Schubert.
Zieh ich wieder aus. Gedacht.
Hans Rotter, Gerald Moore au piano, Le Voyage d'hiver, Franz Schubert, Gute Nacht. Il est 19h43, vous écoutez France Musique, Les Traversées du Temps. Nous sommes en compagnie du sculpteur et de l'orfèvre Gucci, qui nous raconte des choses tellement émouvantes de cette vie en Géorgie, à Moscou et aujourd'hui à Paris. Paris, c'est devenu pour vous votre pays. Je crois que j'ai lu quelque part, vous disiez, je suis né à Paris à 31 ans.
Tout à fait, c'est très emblématique. J'ai eu 33 ans en arrivant en France, ça fait déjà 40 ans écoulés. Donc, facile à deviner quel âge j'ai. Et donc, surtout, j'ai découvert ce patrimoine français inépuisable. Tous les jours, j'ai découvert des choses. Et ça m'inspire beaucoup également dans ma création. Et comme vous avez souligné, j'ai été sollicité souvent par les clergés pour renouveler l'espace liturgique, créer les vases sacrés. Et donc, pour moi, c'est le plus grand honneur.
C'est vrai que dans beaucoup d'églises de France, je pense que l'église de Chartres a beaucoup de...
Oui, ouais, la cathédrale de Chartres.
Cathédrale, pardon.
Cathédrale de Autun.
Vous parliez à une sorte de mécréant qui a oublié que la cathédrale... Chartres, c'est une cathédrale, voilà.
Il y a une quinzaine de cathédrales et des églises abbatiales. Et je viens terminer un reliquaire pour Abbatiale des Conques.
J'ai lu dans le livre donc publié aux éditions Thalia aussi que quand vous êtes arrivé avec Catherine, il me semble, vous ouvrez des yeux écarquillés. Ça devait être impressionnant.
Parce que c'était des chocs, complètement, parce que j'ai changé le monde. Pour moi, société de consommation, je ne connaissais pas. Et rien que pour aller jusqu'à mon atelier, j'ai passé par... Ce qui m'a fasciné de plus, c'est des floristes. Il y a 4 floristes. Je me suis dit que ce n'est pas possible, surtout en février, en mars. Cette quantité de fleurs, tellement bien présentée. C'est véritable l'art pur français.
Gustave Léonard Allor qui dirigeait son ensemble baroque avec Alfred Deller dans l'Agnus Dei de la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Gucci, est-ce que quand vous travaillez, vous écoutez de la musique? Le marteau ne vous empêche pas d'écouter?
Non, je n'écoute pas la musique, j'écoute juste après, si j'ai un moment, dans le silence. Voilà, donc j'ai produit moi-même beaucoup de bruit, donc c'est impossible.
Et par exemple, des voix comme Alfred Deller?
Ah oui, des voix... Je vais vous dire la vérité, j'adore, j'ai plus grande vénération pour peintre, un grand peintre français des grands siècles, Nicolas Poussin. Et quand je vois les tableaux de Nicolas Poussin et j'écoute Alfred Deller, c'est vraiment, je suis un ange, j'ai envie de pleurer. Voilà, j'ai une telle émotion, pas seulement, vous voyez, tout ce qui est grand siècle. Voilà, ça me touche beaucoup. Voilà pour ça.
Et puis votre rapport au sacré, je crois que j'ai lu quelque part que vous disiez que l'art déjà en soi est sacré.
Mais tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a confusion souvent, sacré et religieux. Pourquoi j'ai été sollicité, par exemple, par les clergés français, comme moi je ne connaissais pas, c'est eux-mêmes, ils sont venus vers moi. Donc ils ont senti, sûrement, qu'il y a quelque chose au-delà. Donc, c'est le côté sacré de ma création.
la célèbre vocaliste de Rachmaninov, que vous aimez tant, Rachmaninov, encore
oui,
en exilé
oui,
comme
beaucoup,
vous.
Beaucoup, beaucoup. Oui, oui.
La vocaliste opus 34, c'est Elisa Matiashvili au violon et Hélène Grimaud au piano. Hélène Grimaud qui est très amie avec votre fils, M. Barsac.
Oui, tout à fait.
Vous l'avez connu aussi?
Non, je n'ai jamais rencontré.
Vous l'avez jamais rencontré.
Mais je le sais que Stéphane, comme il a commencé comme ancien journaliste, il était un des premiers et consacré beaucoup de papiers à Hélène Grimaud et soutenu tout le temps.
On va se quitter en écoutant du Baldassare Galuppi, le Confiteor Tibi Domine, avec Véronique Gens, que vous aimez aussi beaucoup. Baldassare Galuppi, le compositeur vénitien du XVIIIe siècle, Véronique Gens avec l'ensemble Seminario Musicale Jarlène dans ce Confiteor Tibi Domine. Merci beaucoup Gucci d'être venu sur l'antenne de France
c'est moi
dans
qui
ce
vous remercie.
Studio. Alors pour voir maintenant une exposition, et là il faut se déplacer, mais c'est pas loin, c'est une heure de train
oui,
de Paris, c'est Bruxelles.
Oui, hein. En Bruxelles, oui.
Et ça sera à partir du 25 janvier prochain, dans le cadre du Salon de l'art Brafa à Bruxelles, dans le stand de la galerie Claude Bernard, évidemment. Merci beaucoup, Gucci.
C'est moi qui vous remercie.
Et bonsoir. L'équipe des Traverses du Temps ce soir, c'est Alexandre Billard, Antoine Giraud, Charles Barjou, la production Martine Moni. Réalisation Jean-Pierre Collard. Et c'est Benjamin François. Il y aura de l'orgue ce soir?
Oh, quand même pas, non. On ne va pas vous endormir ce soir. Au contraire, il y aura Mozart et il y aura Schubert. C'est un très très beau programme donné le 26 mai dernier au Théâtre des Champs-Élysées. Allez, venez avec nous Marcel.
Absolument.